À tous, hein, merci pour votre présence ce matin. Vous savez pourquoi le jeu où on peut gagner les carambars était réservé aux enfants? Vous savez pourquoi? Eh bien, ce week-end, j'étais à Strasbourg et on est allé donc avec Cordia à l'hôtel Ibis où ils nous ont reçus avec deux carambars. J'en ai goûté un et je me suis arraché une couronne. Donc faites attention en mangeant les carambars parce que ça peut tirer la couronne vers le bas. Donc, merci pour votre présence et on va parler du poids de la loi. Vous savez, quand je vois sur le mur derrière moi l'image de cet homme écrasé sous le poids de la loi, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment en Afghanistan, où les talibans terrorisent femmes et enfants au nom de la loi religieuse. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à l'Iran, où les gardiens de la Révolution tuent une femme parce que simplement une mèche de cheveux dépasse de son voile. C'est dingue, hein. Le sage roi Salomon écrivait « S'il est une chose dont on dise « Vois, ceci est nouveau », eh bien, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alors, décidément, nous allons le voir, hein, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Je vous propose de commencer en faisant un bref rappel historique de la société juive qu'il y avait à l'époque de Jésus. Cette scène extraordinaire que nous a lue tout à l'heure Rebecca, dans la cour du temple de Jérusalem, où Jésus enseigne au peuple juif, il enseigne sur les bienfaits de croire et d'écouter, de mettre en pratique, d'observer la loi. Mais surtout d'avoir un cœur humble, repentant, un cœur sincère, un cœur offert entièrement à Dieu. C'est de ça qu'il parle. Et il dit, là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Il leur dit en somme, si Dieu est vraiment pour vous un trésor spirituel, eh bien que votre cœur soit entièrement pour lui et en lui. Il leur dit surtout qu'à elle seule, la loi, hein, que nous avons vue, les commandements, ne suffisent pas. Il en faut plus pour plaire à Dieu et surtout pour être sauvé. L'enseignement de Jésus est dans la continuité de celui de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez ce qui était marqué dans le livre d'Ézéchiel ? Ézéchiel disait « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est une promesse puissante de Dieu. Il rappelle que ce n'est pas ce qui est visible qui fait vraiment le juif, mais au contraire, ce qui est à l'intérieur de lui, ce qui est dans son cœur. Voilà, c'est ça qui fait vraiment le juif. Sans un changement de cœur opéré par Dieu, Jésus dit clairement qu'on ne peut pas mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est impossible. Imaginez, vous allez faire Nancy-Marseille en voiture, par la route, vous sortez à Oudemont, et puis là, vous crevez un pneu en roulant. Et vous décidez de ne pas le changer. Vous pensez que le voyage il risque d'être assez long et assez périlleux. Eh bien, un humain pécheur qui n'a pas son cœur transformé par Dieu est à l'égard de la loi, comme celui qui fait Nancy-Marseille par la route avec un pneu crevé. Et il galère, il n'y arrive pas. On n'arrive pas à respecter tous les commandements de la loi, ce n'est pas possible. Alors vous pouvez imaginer que cet enseignement de Jésus n'était absolument pas du goût des religieux juifs, qu'ils soient soit interprètes de la loi, docteurs de la loi ou scribes et polices religieuses juives. Ils n'appréciaient pas du tout ce que disait Jésus. Jésus n'allait pas dans leur sens, mais surtout, il leur faisait de l'ombre. Pensez donc, ces religieux qui étaient censés être des exemples, des modèles pour le peuple, ils aimaient se faire aussi appeler rabbi, maître, docteur, et voilà que Jésus les humilie publiquement, en les traitant d'hypocrites, disant que la loi ne peut sauver. Il les reprend sans ménagement dans leur enseignement et montre plus de connaissances spirituelles, d'intelligence et de sagesse qu'eux. Enfin, cerise sur le gâteau, Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Ceci scandalise au plus haut point les religieux. Mais ça devrait les réjouir, au contraire, d'avoir en face d'eux le Fils de Dieu. Hein, si ce matin, il y avait Jésus qui venait, disait « Je suis le Fils de Dieu », on serait tous contents. Eh bien, eux, ça les scandalise. Vous le voyez, il existe un véritable antagonisme entre Jésus et les religieux. Le peuple juif, lui, il est très perplexe. Il est scindé entre Jésus et puis les religieux. C'est vrai que Jésus les attire par la puissance, la sagesse, l'impact de ses paroles. Il les attire par ses discours qui touchent profondément leur cœur. Mais en même temps, ils sont sous la domination, et cela depuis leur tendre enfance, des religieux qui exercent sur eux une grande autorité spirituelle et font surtout fonction de police religieuse. Et cette police religieuse, elle est là pour remettre dans le droit chemin eh bien, toutes celles et ceux qui ne pratiquent pas correctement la loi, un peu comme les talibans. Le peuple est donc partagé entre la joie de suivre Jésus, qui leur apporte espérance et puis vérité, et puis la peur, la crainte des religieux qui peuvent à tout moment les chasser du temple, de la synagogue, avec toutes les conséquences dramatiques que ça va avoir pour eux, des conséquences économiques. Et puis, voilà que l'enseignement de Jésus est brusquement interrompu par l'irruption intempestive des religieux. Alors, ces hommes n'interviennent pas par hasard. La police religieuse vient de surprendre une femme en train de tromper son mari. Alors, il s'agit d'un acte très très grave de transgression de la loi. C'est un adultère. Dans la parole, c'est marqué, c'est un adultère. En Exode 20, verset 14, il est marqué « Tu ne commettras point d'adultère ». Les religieux agissent sans le moindre ménagement. Ils traînent cette femme devant Jésus comme on traînerait un sac de pommes de terre, pour lui montrer tout leur mépris. Ils la font bien passer au milieu de la foule pour profondément l'humilier. Ils la placent bien en vue devant Jésus pour faire d'elle un modèle de honte et de scandale. C'est vrai qu'ils appliquent méthodiquement la loi de Dieu à la lettre, sans état d'âme. La loi, c'est la loi, c'est comme ça. Alors oui, la loi, c'est la loi. Mais si aucun être humain ne peut correctement la pratiquer sans avoir auparavant un cœur transformé, pourquoi Dieu a-t-il donc donné la loi ? On peut se poser la question. C'est vrai que la loi a des bienfaits. La loi, rappelons-le, a été voulue et donnée par Dieu à Moïse sur le mont Horeb, le mont Sinaï. Elle est donc juste, parfaite et sainte. Elle révèle en premier lieu les hautes exigences spirituelles de Dieu à son peuple. Voilà ce que Dieu veut. Mais surtout, elle protège l'être humain et la société juive du mal. Hein, par exemple, si c'est marqué « interdit de voler », moi ça me protège par rapport à ceux qui voudraient me voler. Alors ce matin, on ne peut pas faire l'impasse sur les trois rôles bienfaisants de la loi. Tout d'abord, sans la loi, l'être humain ne peut pas savoir qu'il est pécheur. C'est l'interdit qui le lui révèle. Si aucune loi ne m'interdit de passer au feu rouge, je vais allègrement griller tous les feux rouges que je rencontre, sans problème. Je n'aurais pas connu le péché, dit Paul, s'il n'y avait pas eu la loi. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». La loi nous révèle que nous sommes pécheurs. Et est-ce que nous en avons conscience? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes tous des pécheurs? Alors, incroyable, par la loi, et peut-être vous aussi, j'ai envie de faire ce qui est interdit. C'est dingue, hein? Je vais vous raconter une petite histoire. On raconte qu'au XVIIIe siècle, Antoine Augustin Parmentier, voulant introduire la pomme de terre en France, rencontra de la part du peuple français, méfiant, des réticences. Alors, il eut une idée géniale, celle d'interdire, il y avait un grand champ de pommes de terre, et il en a interdit l'entrée, et il a mis des grillages tout autour, des gardes, jour et nuit. Ce qui s'est passé, c'est que bientôt on constata de très nombreux vols, et la pomme de terre était entrée, introduite en France. Il suffit d'interdire pour que les gens aient envie de le faire. Quand c'est permis, personne n'en veut. La loi nous révèle aussi que nous sommes tous prisonniers du péché, car on est tous obligés de pécher. C'est plus fort que nous. Moi, je n'ai pas envie de me mettre en colère, mais je me mets en colère. Je n'ai pas envie de dire du mal des autres, et puis c'est plus fort que moi, j'en dis. Alors, si nous sommes tous prisonniers du péché, nous avons forcément besoin d'un libérateur. Car par nous-mêmes, on ne peut pas se libérer du péché. Ce n'est pas possible. La loi nous révèle enfin que ce libérateur doit être parfait. Il ne peut pas être pécheur. Cet homme parfait s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. C'est justement celui que les religieux contestent et devant qui ils ont placé bien en vue la femme adultère. Jésus, lui, est venu accomplir la loi à la place de l'homme pécheur qui n'y arrive pas par lui-même. En mourant sur la croix par amour pour Dieu et par amour pour l'humanité perdue, eh bien Jésus, il a parfaitement accompli pour nous la loi, car il a mis en pratique ces deux commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Alors, ce qu'a fait Jésus pour nous, en accomplissant la loi, à notre place, pourrait être illustré par ce dessin, par ce dessin derrière. Un enfant n'arrive pas à attraper son ballon qui est beaucoup trop haut pour lui, et quelqu'un de grande taille le fait à sa place. Jésus, il a accompli la loi parfaite pour l'homme. Est-ce que vous avez compris cette image? Voilà, Jésus, il a fait ce que cet homme a fait pour l'enfant, c'est-à-dire il a accompli la loi à notre place. Ayant refusé de reconnaître Jésus, ayant rejeté le Fils de Dieu, eh bien les religieux juifs ne sont forcément pas passés, eux, par une transformation de cœur. Alors leur irruption rageuse, leur comportement belliqueux et haineux nous rappellent que la loi pratiquée par les religieux n'a pas que de bons côtés. Elle en a aussi de mauvais. Alors on va voir les méfaits de la loi pour qui veut l'observer. Tout d'abord, disons-le clairement, les chefs religieux se sont gravement trompés en croyant et en enseignant que par la loi, on pouvait être sauvé et obtenir la vie éternelle. On ne peut pas, c'est pas possible, à moins d'être parfait. Moi, c'est ce qu'on m'a appris au catéchisme quand j'étais jeune. C'est qu'il fallait faire de bonnes actions, il fallait faire des béats pour plaire à Dieu et pour obtenir le paradis. La Bible, la parole de Dieu, affirme le contraire. Personne ne sera justifié, personne ne sera sauvé devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc tous ceux qui veulent faire des bonnes actions pour plaire à Dieu, ils se trompent. L'ancien religieux zélé qu'était l'apôtre Paul était stupéfait de constater que par la loi, qu'il avait si rigoureusement observée, servie et défendue, eh bien, elle lui procurait non pas la vie éternelle, mais la mort éternelle. Voilà ce que dit Paul. Moi, autrefois, sans la loi, je vivais, j'étais heureux. Mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre et moi, je suis mort. La loi, par le péché qu'elle révèle, tue spirituellement eh bien, celle ou celui qui la sert, parce qu'il la sert forcément mal, parce qu'il est pécheur. Et je répète encore, le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul. Servir la loi, c'est mourir, c'est aller à la perdition. La loi, elle fait mourir de trois manières différentes. Elle fait mourir en tuant en l'homme la joie, la paix et l'espérance, en les remplaçant par la frustration, la tristesse, le désespoir, la culpabilité qui découle de l'incapacité d'obéir à la loi. Voilà pourquoi le peuple et les religieux dépérissent et sont sans joie et sont sans espérance. Vous savez, aujourd'hui encore, dans beaucoup de religions, et même dans les milieux évangéliques, je ne suis pas chez nous, mais toutes celles et ceux qui vivent sous la loi, qui demeurent dans la lettre du commandement, les « tu dois », « il faut », « tu ne dois pas », « il est interdit », eh bien, vivent dans le pharisanisme, le légalisme qui font mourir spirituellement les croyants. Vous savez, depuis notre prime enfance, eh bien, nous sommes habitués à être régis par des lois. Vous savez, les lois arithmétiques où un et un font toujours deux. Hein. Les lois administratives, tu n'écriras pas de feu rouge. Les lois sportives, hein, carton jaune, carton rouge. Les lois militaires. Ces lois, quelque part, nous sécurisent, on en a besoin quand même. Et nous avons tendance, inconsciemment, dans notre relation spirituelle avec Dieu, comme les pharisiens, eh bien, à nous sécuriser en nous remettant sous la loi. Vous savez, le genre de « je dois lire ma Bible tous les matins, sinon qu'est-ce qui va m'arriver ?»« Il faut évangéliser !»« Je ne dois pas boire d'alcool, c'est interdit !»« J'en ai envie, mais je n'ai pas le droit !» Mes frères et sœurs, Christ est venu, Christ est mort sur la croix pour nous libérer de la loi. Galates 5.1, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage par la loi. Nous ne sommes plus, nous chrétiens, régis par la loi, mais grâce à Christ, la loi est maintenant gravée dans nos cœurs à jamais. Hébreux 10, 16, voici quelle alliance je vais établir avec eux. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Voilà, c'est gravé en nous maintenant. Et puis la loi fait mourir le croyant par l'orgueil qu'elle engendre. Celle ou celui qui croit observer la loi, alors que cela, je l'ai dit, est impossible à l'homme pécheur, le fait par ses propres forces et s'illusionne en croyant le faire. Le fait de croire qu'il y arrive, ça l'enorgueillit. 1 Pierre 5,5, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Les religieux juifs, eux, sont enflés d'orgueil et méprisent totalement le peuple qu'ils sont censés protéger. Et puis enfin, la loi fait mourir le croyant en le rendant totalement aveugle. Souvenez-vous de la parole de Jésus en Matthieu 15, 14. Les disciples dirent à Jésus, « Sais-tu que les pharisiens ont été très très choqués par tes paroles ?» Jésus répondit, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. » En se réfugiant sous la loi qu'il croit respecter, eh bien le religieux se refuse à voir Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. Car pour lui, seule la loi peut sauver, pas Jésus. C'est un aveuglement spirituel, car au fond d'eux, les religieux, ils savent pertinemment qui est Jésus. Ils le savent. Hein, nous avons l'exemple de Nicodème qui dit « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. » Quel aveu ! On croit rêver. Ceux qui disent cela sont les mêmes qui cherchent à le piéger, à le faire mourir, et qu'il accuse même d'avoir un démon en lui. Quel aveuglement ! Cet aveuglement des religieux a pour conséquence de faire passer la loi avant Dieu, avant Jésus. Ils prétendent aimer et servir Dieu, mais ils refusent le plan de salut que Dieu propose. Voilà pourquoi Jésus a des mots très durs contre eux en les traitant d'hypocrites. Voilà. Est-ce que nous faisons des fois passer la loi avant Jésus? Alors voilà, chers amis, les religieux qui font face à Jésus, qui viennent pour le piéger, qui encadrent la femme adultère, sont des aveugles orgueilleux qui ne connaissent pas Dieu de l'intérieur avec un cœur transformé. Ils réclament justice pour la femme pécheresse, Mais quelle justice réclame-t-il ? La justice de Dieu ou la justice des hommes ? C'est ce que nous verrons dans l'acte 2. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Pour moi.
J'ai bien aimé le petit jeu qu'a proposé Rebecca. Parce que c'est vrai, on entend souvent des gens quand on dit « Oui, mais vous voulez suivre la loi ?»« Oui, mais moi, je ne l'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait de mal. » Et en fait, on voit, hein, quand on répond à ça, on a tous quelque chose à se reprocher. Et quand on passera devant Dieu, ben, c'est cette loi-là que Dieu il va nous... Sur cette loi-là, que Dieu va nous juger. Alors justement, on va parler de la grandeur de la justice de Dieu. Alors, dans son enseignement, Jésus ne manque jamais de rappeler à ses auditeurs qu'ils n'ont à s'inquiéter de rien, mais de faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux leur préoccupation première. Ça, c'est écrit dans Matthieu 6, 33. Alors, vous savez, on s'interroge bien souvent sur ce qu'est vraiment la justice de Dieu. Alors, ici, c'est bien parce que le traducteur en donne la définition. La justice de Dieu au sens très large, c'est tout ce que Dieu considère comme vrai et juste. Comme Dieu est le créateur saint et parfait de tout ce qui existe, eh bien, il sait et connaît exactement toute chose, et c'est sa justice à lui qui doit s'exercer. C'est pas la nôtre, c'est celle de personne d'autre, c'est celle de Dieu. Il est clair que sa justice, comme ses voies et ses pensées, sont différentes et bien au-dessus de celles de l'homme. Vous vous rappelez de ce passage hein, dans Ésaïe ? Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Oui, on a notre façon de nous diriger, on a nos pensées, mais celles de Dieu sont largement au-dessus des nôtres. Alors les religieux juifs qui sont censés appliquer la justice de Dieu ont en réalité leur propre justice à eux. Ils ne sont pas seulement aveugles, ces religieux, ils sont aussi injustes aux yeux de Dieu. En réalité, ils sont plus qu'injustes, ils sont phallocrates et misogynes. Ils méprisent les femmes qu'ils considèrent comme inférieures aux hommes, et ils les haïssent. Pour eux, la femme doit être en tout soumise à l'homme. C'est vrai, ça fait des fois plaisir hein, quand une femme est soumise à un homme, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Et surtout, ils considèrent la femme comme principale responsable des faiblesses des hommes. C'est pour ça que souvent, elles sont voilées. D'ailleurs, lorsque les religieux traînent la femme adultère devant Jésus, qu'oublient-ils, eux qui connaissent la loi de Moïse sur le bout des doigts ? Qu'est-ce qu'ils oublient ? L'homme. Ils oublient tout simplement une bonne partie de la loi, une grosse partie de la loi. Et dans le livre de la loi, au Deutéronome 22-22, il est écrit « Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. » C'est clair. Enfin, je ne sais pas, moi je comprends que les deux auraient dû être amenés. Deutéronome 22, c'est la vraie justice de Dieu. C'est sa juste pensée. Alors, en oubliant totalement l'homme adultère, eh bien, les religieux ont créé leur propre justice à eux. Jésus, lui, n'a jamais cessé de dénoncer le détournement fallacieux de la justice de Dieu par les religieux. Vous voulez un exemple ? Quand Dieu dit « Honore ton père et ta mère, que celui qui injurie ou maudit ses parents sera puni de mort. » Eh bien, dit Jésus, vous enseignez, si vous dites à votre père ou à votre mère nécessiteux, l'argent dont j'aurais dû vous donner pour vous assister, eh bien, je le donne en offrande à Dieu pour le temple. En faisant cela, vous êtes quitte de l'honneur que vous devez à vos parents. Les religieux arrangent les commandements à leur convenance. Et Jésus, lui, en tire cette conclusion accablante pour eux. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, eh bien, il est loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par les hommes. Voilà, c'est clair. Prenons garde de ne pas nous conduire nous-mêmes comme ces religieux qui prêtent à Dieu des pensées qui ne sont pas les siennes. Vous savez, je vous ai expliqué ici que j'aime le foot, moi. Et je me rappelle qu'au début de ma conversion, mais ça n'existe plus maintenant, il y a un frère qui est venu me voir qui m'a dit « T'aimes le foot ? Mais c'est une idole dans ta vie. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur t'en délivre. » Et j'ai dit « Mais attends, le Seigneur, il n'aime pas le foot ?» En interprétant mal ou à notre profit des versets de la Bible. Ça nous arrive souvent d'interpréter comme on veut des versets de la Bible. Moi, je les ai mal interprétés une fois, c'était contre moi. Je vous ai déjà raconté ça quand j'étais dans mon immeuble. Je sortais d'un culte où on m'avait expliqué que si on te demande, donne à celui qui te demande. Des jeunes sont passés, ils m'ont dit « On a perdu la clé de notre cave, est-ce que vous pourriez me la donner ?» Je dis « Oula !» Oula, mais qu'est-ce qu'il m'a dit au culte ? Donne à celui qui te demande. J'ai donné ma clé. Le lendemain, tout a été volé. Bon, c'est peut-être pas mal interpréter les versets de la Bible. Ça peut être grave. Et puis, en jugeant que Dieu est injuste, moi je sais que ma pauvre mère, ma regrettée mère, puisqu'elle est disparue maintenant, elle ne lisait jamais l'Ancien Testament parce qu'elle trouvait Dieu trop violent. Voilà, parce qu'il dévouait par interdit les peuples païens. Quand nous sommes dans l'émotion, notre justice est dirigée par l'émotion et non pas par l'Esprit de Dieu. Jamais Jésus n'a remis en cause la loi et la justice de Dieu. Pourtant, les religieux belliqueux insistent, répétant leurs questions, comme si Jésus allait les contredire. Ils disent « Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre ». Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? Or, c'est vrai que Jésus aurait pu rentrer dans un débat d'idées, d'opinions. Non, il va s'attaquer à ce qu'il y a de plus profond, de plus caché dans l'être humain, à savoir sa conscience. Seul Dieu, le Dieu de justice, est capable de sonder les consciences, mais aussi les pensées et les cœurs. Sonde-moi, Éternel, disait David, éprouve-moi et examine mon cœur, examine mes pensées. Jésus fixa alors les religieux et leur posa cette simple et juste question. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus, qui est Dieu, montre par cette remarquable question toute l'étendue de sa justice. Et il y a tout dans cette question. Il rappelle d'abord qu'il n'est pas contre la loi. Puis il les interpelle directement dans leur conscience. Oui, cette femme mérite sûrement la lapidation, puisque la loi de Dieu l'affirme. Mais vous, religieux, vous qui l'accusez, vous qui la jugez et la condamnez, vous qui exercez la justice contre elle, vous qui vous faites la main de Dieu pour la lapider, bien sûr, bien évidemment, vous avez la légitimité pour le faire, car vous êtes vous-même pur, juste, parfait et sans péché. Et même, vous n'avez bien sûr jamais commis d'adultère dans vos pensées, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'aux yeux du peuple, les religieux, au moins en apparence, sont des gens parfaits, nickel chrome, comme disent les jeunes. Ils semblent n'avoir rien à se reprocher. Ils ont donc une très haute opinion d'eux-mêmes. « Oh Dieu, disait l'un d'eux, je te remercie de ne pas être avare, de ne pas être malhonnête et adultère, comme les autres hommes. Que peut-on leur reprocher ? Rien. » Alors bien sûr, on s'attend sans surprise à voir ces hommes, bien sous tout rapport, lapidés, cette femme. Mais aux surprises, que dit la Bible ? Quand ils entendirent cela, les religieux accusés par leur conscience se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Quel dénouement ! Voilà que les religieux se carapatent, ils fuient. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, la justice de Dieu a d'abord agi dans les consciences, avant d'opérer dans les cœurs. On a tous des consciences. La parole de Jésus a fait en eux l'effet d'une bombe. Elle leur a parlé juste et vrai. La Bible dit « La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Sommes-nous interpellés de cette façon par la parole de Dieu? Est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'elle nous parle, la parole de Dieu? On peut imaginer comment la parole de Jésus a agi dans les consciences et les cœurs des religieux. Tout d'abord, la parole de Jésus leur rappelle qu'ils sont pécheurs, comme cette femme qu'ils méprisent tant. Rappelons-le, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'étant pas meilleurs qu'elles, la parole de Jésus les interpelle profondément. Elle leur dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais exactement les mêmes choses qu'elles. » C'est Dieu seul qui est légitime pour juger. Certainement pas les religieux ou l'être humain en général, pas moi, personne. Cette parole doit nous-mêmes nous interpeller, enfin nous, mais moi, qui juge bien souvent les autres. Vous le savez toutes et tous, le cœur humain, il est dur, rebelle. Rebelle à Dieu est quasi impénétrable. Le cœur est tortueux plus qu'autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître, dit la parole? Qui? Le cœur est capable de nier même l'évidence. Je suis passé au feu rouge. Ah non, il n'était pas rouge, il était orange. Tout juste, c'était pas vert. D'étouffer la vérité et même de proférer le mensonge. Pourtant, ce que savent les religieux, c'est que Dieu peut lire dans les cœurs. Et Jésus, qui vient de Dieu, peut lire dans le leur. Moi, Éternel, moi, je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui aura valu sa conduite. Dieu lit dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos pensées, dans nos consciences. Sachant cela, les religieux ne veulent surtout pas que Jésus dévoile devant le peuple la noirceur de leur cœur, qu'il révèle leur faiblesse, leur péché, qui ils sont vraiment. Ils refusent d'être confrontés à la vérité. Alors ils fuient, c'est plus facile de fuir. Seule la justice de Dieu, contrairement à la justice humaine, peut juger avec droiture, équité et surtout vérité. Sommes-nous conscients que Dieu peut lire dans nos cœurs et nos pensées? Moi, quand j'y pense, je trouve ça flippant. Ça me fait flipper parce que je me dis, oh là là, quand je pense de mauvaises choses, Dieu les voit, quoi. Un autre versant de la justice de Dieu, c'est l'absolue intégrité dont il fait preuve. Il ne se laisse ni corrompre, ni comme nous, tromper par l'apparence. Au prophète Samuel, dans la parole de Dieu, il dit « Je ne juge pas à la manière des hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde, lui, au cœur. » Avec Dieu, pas de piston, pas de favoritisme, pas de misogynie. Une femme a la même valeur à ses yeux qu'un homme. Ça, c'est bien. Sinon, il y a la moitié de l'humanité qui est éjectée. Pas non plus de considération de personne. Un docteur de la loi hypocrite vaut largement une femme pécheresse. Dieu fait pareillement justice à chacun et ses jugements sont justes. La justice de Dieu stipule aussi qu'un seul témoin ne peut suffire pour constater un crime, un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Où sont les témoins? Où sont les religieux? Les religieux ont quitté le temple? Ils se sont esquivés? Jésus a beau jeu de demander « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Les témoins visuels du crime de cette femme sont en ce moment chez eux. Ils sont rentrés chez eux. « Personne ne m'a condamné, Seigneur !» lui répondit-elle. Selon la justice de Dieu, cette femme, bien que coupable, ne peut être condamnée faute de témoins. Vous le voyez, chers amis, Dieu est dans le respect absolu des règles d'intégrité qu'il a lui-même établies. Le coupable ne peut pas être considéré spirituellement comme innocent devant le Dieu juste. Cette femme est coupable, personne ne l'a condamnée, mais elle reste coupable devant Dieu. Et je rappelle, le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Cette femme, selon la justice de Dieu, mérite la mort, bien que personne ne l'accuse. Vous savez, on pense généralement que c'est pas grand-chose de pécher, tout le monde le fait, un petit péché, c'est rien. Non, c'est pas grave. Eh bien, faux. Le péché conduit à la mort éternelle. C'est très grave, le péché. Alors, oui, aux yeux de Dieu, cette femme mérite la mort éternelle. Peut-être trouvez-vous que cela est injuste. Oh, c'est qu'un adultère. Vous avez le droit de trouver ça injuste. Mes chers amis, lors de notre face à face avec Dieu, après la mort, c'est cette justice qui nous jugera. Nous méritons toutes et tous, autant que cette femme, de mourir, car, répétons-le, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, tous. Seuls celles et ceux qui ne pêchent jamais méritent la vie et seront sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne pêche jamais ? Vous pouvez lever le doigt ? Bon, ça me rassure. À part Jésus, il n'y a personne qui pêche, qui ne pêche pas. Celle ou celui qui a péché doit forcément en payer le prix. C'est le prix de la perfection, de la sainteté qui caractérise la justice divine. Dieu a tellement le péché en horreur qu'il veut l'éradiquer de nos vies, l'enlever de nos vies. Pour autant, chers amis, si nous méritons toutes et tous la mort, on est tous bien vivants ce matin. On mérite la mort éternelle, on mérite la mort, parce qu'on a tous péché, mais on est vivants. Ce qui doit être clair pour tout le monde, c'est que Dieu, dans sa justice, ne cherche pas à punir le pécheur, mais à nous sauver du péché. Sinon, nous serions tous morts ce matin. Dieu n'a aucun intérêt, aucun plaisir à nous voir mourir. Il a au contraire un désir profond de nous voir vivre, mais avec un cœur transformé, un cœur changé, d'une manière différente. Puisque l'être humain ne parvient pas par lui-même à éradiquer le péché, ni à s'acquitter du prix de son péché, eh bien, la justice divine a prévu quelque chose d'extraordinaire. Elle a autorisé qu'un autre, qui bien sûr en a la légitimité, eh bien, le fasse à sa place. On l'a dit tout à l'heure. Cet autre qui seul est sans tâche, sans péché, et qui donne sa vie pour ma vie, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. « Je suis mort pour que tu vives », dit Jésus. La loi, la justice de Dieu, c'est vrai, elles ont un côté dur, dépourvu de tout sentiment. Aussi, celles et ceux qui ne connaissent Dieu que sous cet angle sont eux-mêmes durs et dépourvus de sentiments. Mais Dieu qui est plus grand, plus profond que l'univers, n'est pas limité à la loi et à la justice. Heureusement, Dieu a aussi un cœur qui laisse transparaître l'océan d'amour dont il est rempli. La justice sans l'amour, c'est ce que les religieux connaissent de Dieu. Et hélas, pratique. Mais la justice, transcendée, sublimée par l'amour, révèle le vrai caractère de Dieu. Et si vous n'êtes pas endormi, ce sera le sujet du troisième et dernier acte, l'amour de Dieu à travers le Christ. Voilà l'épilogue. la puissance de l'amour du Christ. Alors, lorsqu'on évoque, comme on l'a fait, la loi et la justice de Dieu, eh bien, c'est vrai, nous sommes surpris par leur extrême dureté. C'est vrai, c'est dur hein, quand les lois tombent, quand la justice de Dieu aussi s'exerce. En réalité, elles sont dépourvues de tout sentiment et elles donnent de Dieu l'image d'un personnage sévère qui guette chacun de nos fautes, chacune de nos fautes et qui nous punit. Un peu comme, vous savez, le père fouetteur de notre enfance, hein, qui terrorisait les écoliers désobéissants. J'en avais tellement peur que des fois, oulala, je me cachais. Est-ce qu'on a cette image de Dieu, d'un père fouetteur? Est-ce qu'on a cette image de Dieu qui guette chacune de nos fautes et qui est prêt à nous punir? Non, Sandrine, hein. C'est vrai que nous avons profondément ancré en nous cette pensée de Dieu et que Dieu est totalement insensible à nos faiblesses humaines, qu'il exige de nous des choses qu'en réalité, il ne nous demande pas forcément et que nous nous imposons nous-mêmes. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez tout. Les matins, moi, j'ai l'habitude, je viens déjeuner, et puis, juste après, je monte et je fais mon culte personnel avec Dieu. J'ai une relation intime avec Dieu. Puis ce jour-là, je ne sais pas, je voulais écouter les informations. Alors, je mets la télé, j'écoute les informations, mais il m'est monté une culpabilité en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai eu peur que Dieu ne soit pas content. Mais est-ce que Dieu m'a demandé ça? Pas du tout. Cette culpabilité ne venait pas du tout de Dieu, mais de moi. En réalité, je me suis imposé des normes que Dieu, dans son amour, ne m'a jamais demandées. Dieu est le Dieu qui nous rend libres. Chassons donc de nos vies, de nos pensées, tous ces faux raisonnements. Ce sont sûrement toutes ces visions de Dieu qu'ont les religieux qui traînent la femme adultère devant Jésus et qui réclament sa mort, insistant même pour que Jésus approuve sa lapidation. Hein, on l'a dit, ils sont haineux, avides de sang, ils réclament justice au nom de Dieu. Mais quel Dieu servent-ils? Le connaissent-ils vraiment de l'intérieur? Quelle différence, mes amis, entre ces religieux belliqueux et leur ancêtre et serviteur de Dieu, Abraham. Lorsque Dieu vint lui annoncer sa décision à Abraham de détruire deux villes, Sodome et Gomorre, célèbres pour leur perversité, eh bien, il plaida leur cause devant Dieu, au lieu de se réjouir de leur destruction. Abraham dit à l'Éternel, « Vas-tu faire périr le juste avec le coupable? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui pourraient se trouver dans la ville ?» Abraham, en habit d'avocat, plaide devant Dieu justice et compassion. Il demande la compassion de Dieu. Et Dieu lui répond. Il dit, « Si je trouve 50 justes à Sodome, dit Dieu, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Peut-être en manquera-t-il 5 ?» Dieu répondit, « Alors je ne la détruirai pas à cause de ces 5. » Abraham, au lieu d'accuser, de condamner, de réclamer la mort des pécheurs, implore pour eux le pardon de Dieu. Il vient chercher en Dieu la sensibilité, il vient chercher en Dieu l'amour du Père créateur qui aime ses créatures plus que tout au monde. C'est ce versant de Dieu que ne connaissent absolument pas, hélas, les religieux. Pourtant, dans le livre du prophète Ézéchiel, qu'ils sont censés connaître, est écrit « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le pécheur ?» demande le Seigneur éternel. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ?» Voilà, c'est ça que je veux. Les religieux, s'ils avaient vraiment connu Dieu de l'intérieur, avec leur cœur, auraient su que la volonté du Seigneur, son désir profond, ce n'était pas de punir cette femme adultère, c'était au contraire qu'elle change de vie et qu'elle vive. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il a dit à la femme adultère, « Personne ne t'a condamné ? Je ne te condamne pas non plus. » va et ne plaise plus. Et moi, je vous pose la question. Qui avait seul la légitimité pour lapider cette femme adultère? Qui? Jésus. Lui, il aurait pu la lapider. Il en avait même le droit et le devoir. Mais pour Jésus, tout est pardonné. Il ne s'attarde pas sur la faute de cette femme, sur son péché. Il ne lui fait pas non plus un sermon de 15 pages. Il se projette au contraire avec elle sur l'avenir. Va désormais et ne pêche plus. La venue de Jésus sur terre, sa présence dans la cour du temple, a de quoi surprendre. Que fait là le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait là dans cette cour? Est-ce sa véritable place? Jésus, lui, il est issu de Dieu le Père, il est le roi des cieux, et Dieu lui-même, sa vraie place est dans le royaume de son Père, assis sur son trône glorieux, entouré et servi par des myriades d'anges. Alors que fait Jésus dans ce bourbier, entre une femme qui a trompé son mari et des religieux complètement excités? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, imaginez cette petite histoire. Vous partez en retraite, et vous attendiez à ce moment depuis très longtemps, vous êtes heureux. Vous organisez une grande fête avec tous vos amis, c'est ce soir, et vous êtes au comble du bonheur. Mais voilà que votre fille, à qui vous aviez interdit de faire du vélo sans casque, a lourdement chuté. Ça rappelle quelque chose, Solène? Elle n'avait pas de casque, et elle est tombée sur la tête. Vous avez cette fête hyper importante pour vous et le risque que votre fille ait fait une hémorragie interne. Vous avez un choix à faire. Le choix est vite fait, hein? Oui, c'est clair. Vous l'emmenez aux urgences. Vous sacrifiez votre fête parce que c'est votre fille bien-aimée, malgré sa désobéissance, et compte plus pour vous que n'importe qui. Cette histoire, chers amis, c'est celle de Jésus. Il est heureux dans son royaume spirituel. Dieu est esprit. Il est aux côtés de son Père. Que lui manque-t-il? Rien, absolument rien. Il regarde du haut des cieux vers la terre et que voit-il? Il voit des humains qui ne cherchent pas Dieu, des humains qui font du mal, qui tous pêchent et se dirigent allègrement mais sûrement vers la mort éternelle, vers l'enfer, des humains qui souffrent. Psaume 102, verset 21, il entend les plaintes de ceux qui sont captifs. Il vient pour détacher les liens des condamnés à mort. Chers amis, vous est-il déjà arrivé d'en avoir marre de la vie? D'exprimer des souffrances, des plaintes qui se sont perdues dans l'immensité de l'univers sans que personne n'y réponde? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oui, votre cri a été entendu. Car Jésus dit, j'ai entendu les plaintes de celles et ceux qui sont captifs du péché. Je viens pour détacher les liens de ceux que la justice de Dieu a condamnés à la mort éternelle. Voilà ce que dit Jésus. Il y a pour Dieu urgence d'intervenir, mais la barre a été placée très haute par Dieu. Il faut la vie d'un innocent pour compenser la vie d'un pécheur. L'amour, nous l'avons dit, est sacrifice, comme cet homme qui a sacrifié sa fête pour sa fille. Jésus répond sans broncher, sans hésiter un instant, à la demande du Père d'offrir sa vie pour celle de l'humanité pécheresse perdue. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La mission de Jésus est claire. Il vient sur terre, il se fait homme pour mourir sur la croix. Pour que nous vivions, il vient mourir pour toi, pour moi, pour nous, mais aussi pour cette femme adultère qui est à terre devant lui. Voilà pourquoi vient Jésus. Dans la cour du temple, Jésus rappelle à cette femme les raisons de sa venue. Elles sont claires et clairement expliquées par la Bible. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus est venu pour sauver cette femme, non pour la condamner. Alors il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Cette femme qui gît à terre devant Jésus est en réalité une miraculée. Personne ne pouvait échapper à une lapidation prononcée par les religieux. C'était impossible. Dans son for intérieur, cette femme était déjà morte. Sans l'intervention inattendue et salvatrice de Jésus, elle serait probablement déjà agonisante, sous un monceau de cailloux lancé par des religieux enragés. Cette femme, en quelques instants, est passée de la mort à la vie, du désespoir à la renaissance. Imaginez un instant quelles sont ses émotions, ses sentiments et toute la gratitude qu'elle doit ressentir pour Jésus. Dans sa première lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrit « L'amour couvre tout. Il souffre, il endure et excuse tout. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. » C'est ce que fait Jésus avec cette femme. Frères, sœurs, chers amis, pardonner, c'est aimer. Jésus pardonne à cette femme parce qu'il aime l'humanité. Plus même, il lui fait confiance. Dans très peu de temps, Jésus va accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Il va bientôt mourir sur la croix pour que cette femme pécheresse puisse vivre. Pourtant, Jésus n'est pas venu mourir pour cette femme uniquement. Il est venu mourir pour nous aussi. Nous tous. Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde et l'être humain en particulier qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Jésus, lui, a offert sa propre vie par amour pour que nous puissions accéder à la vie éternelle en nous confiant en lui par gratitude. Quel merveilleux cadeau! Alors imaginez ceci. Vous aimez quelqu'un très très fort. Vous aimez quelqu'un très très fort? Oui. Et vous voulez lui offrir un cadeau à la hauteur de votre amour. Vous avez plus d'argent et vous empruntez pour lui acheter un très très beau bijou. Le jour où vous allez lui offrir ce merveilleux cadeau arrive, vous êtes ému, vous lui offrez, et cette personne le prend et sans ouvrir le paquet se dirige vers la poubelle et le jette dedans. Que pensez-vous de cette personne? Eh bien, cette personne, chers amis, c'est moi. Mais ça pourrait être aussi vous. Oui, ça peut être nous qui sommes réunis ici ce matin. Nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Nous savons qu'il a souffert sur la croix, que ses mains et ses pieds ont été percés par les clous pour que nous vivions. Nous savons qu'il nous a offert un cadeau de très très grand prix, la vie éternelle, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de l'enfer. Que faisons-nous de ce merveilleux cadeau? Personnellement, pendant 33 ans de ma vie, j'ai jeté ce merveilleux cadeau offert par Dieu à la poubelle. Je n'ai en effet aucun cas. Ça ne m'intéressait pas. Jésus, dans son cœur, est déjà mort pour cette femme adultère. Alors il lui lance cet appel plein d'espérance. « Va et ne pêche plus !» Cet appel n'est pas celui que nous entendons avec nos oreilles humaines. Vous savez, du genre « Disparais, tu t'en tires bien, tu as de la chance, pars et surtout ne recommence pas. » Voilà, c'est pas ça qu'il faut entendre dans ce que dit Jésus. Non, cet appel sort du cœur d'amour de Jésus. Jésus sait qu'un pécheur pêche et continuera à pêcher. Comment cette femme pourrait cesser donc de pêcher? Cet appel de Jésus a pour vocation de parler au cœur profond de cette femme, à son cœur de femme. Et en vérité, il lui dit cela, « Va, tu es libre. Tu es libre parce que moi, je t'ai libéré. Tu méritais la mort à cause de ton péché. Moi, je t'ai sauvé de la main des religieux. Plus, je t'ai gracié. Tu as vu de tes yeux, de ton cœur, que j'avais le pouvoir de te sauver. et à présent, je t'offre la vie, je t'offre une vie nouvelle avec un cœur nouveau. Pour entrer dans cette vie nouvelle, je t'invite à renoncer à ta vie passée, à ton existence pécheresse qui te conduit vers la mort, vers l'enfer. Désormais, attache-toi à moi, à mon enseignement. Ouvre-moi ton cœur et je te promets que là où tu seras, je serai avec toi par mon esprit. Reçois-moi, fais-moi confiance et moi je changerai ta vie et ton cœur afin que tu ne pèches plus. Comprenez ? Chers amis, c'est un appel semblable que j'ai reçu il y a 37 ans dans un petit hôtel minable de Quito en Équateur. J'en avais tellement marre de la vie, j'étais tellement désespéré qu'il montait en moi la douloureuse pensée de mourir. Alors j'ai crié à Dieu, à ce Dieu qu'on m'avait décrit comme un Dieu plein d'amour. Et ce Dieu plein d'amour m'a répondu. Oh, il ne m'a pas dit plus qu'à cette femme adultère, mais il a touché au plus profond mon cœur. Je me suis ouvert à lui et il a totalement et complètement transformé ma vie, mon existence. Ce que Jésus a fait pour cette femme adultère, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre nous ce matin, eh bien, il peut et veut le faire pareillement pour celles et ceux qui n'ont pas encore répondu à son appel. David, dans le beau psaume 95, écrit au verset 7, « Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne rendez pas votre cœur dur. Non, n'endurcissez pas votre cœur. Ne refusez pas d'entendre l'appel qu'à travers moi, Jésus vous adresse ce matin. Sachez-le, chers amis, vous n'êtes certainement pas ici ce matin par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Peut-être pensez-vous, Dieu ne s'intéresse pas à ma pauvre vie. Il est bien loin de mes soucis, il est bien loin de mes préoccupations, il est bien loin de mes souffrances. Est-ce que vous pensez ça ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça? Non, personne. Alors, pour ceux qui pourraient penser ça, ce matin, j'ai une grande et bonne nouvelle pour vous. Si vous avez entendu que Jésus était venu pour changer nos vies, si vous avez entendu que Jésus était venu prendre sur lui nos péchés, mais aussi nos afflictions, nos peines, nos douleurs et nos souffrances, si vous vous êtes reconnu dans cette femme pécheresse, alors ne fermez pas votre cœur à son puissant appel ce matin. Et pour vous aider à y répondre, je vous invite à reprendre les paroles de la prière que je vais faire maintenant monter vers Dieu. Et je vous invite à prier. Ceux qui veulent reprendre les paroles que je vais prononcer, faites-le dans votre cœur et dites-le à Dieu. Seigneur, je ne te connais pas encore, ou je te connais imparfaitement. Mais j'ai entendu ce matin, et j'ai compris que tu avais pris sur toi, à la croix tous mes péchés. J'ai compris, Seigneur, que sans toi, sans ton aide, sans ta mort sur la croix, eh bien je vais aller lentement mais sûrement vers la mort éternelle. Oui, j'ai compris, Seigneur, que sans toi, sans ton aide, sans ta mort sur la croix, je vais aller lentement mais sûrement vers la mort éternelle. Seigneur, j'ai entendu que je te pouvais t'ouvrir mon cœur afin que tu changes, que tu transformes ma vie. Je veux, Seigneur, t'ouvrir grand mon cœur. Oui, Seigneur, je veux t'ouvrir grand mon cœur. Je veux, Jésus, que tu changes ma vie. Je veux, Jésus, que tu changes ma vie. Je veux, Jésus, te rencontrer et t'appartenir. Oui, Seigneur, je veux te rencontrer et t'appartenir. Amen. Voilà, pour celles et ceux qui ont fait cette prière dans leur cœur, celles et ceux qui auraient besoin d'aide ou de prière, eh bien, vous pouvez venir nous voir, Rebecca et moi, à la fin du culte et nous prierons pour vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.